Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Les Nations Unies appellent à la fin des violences en Irak au cinquième jour d'un mouvement de contestation marqué par la mort de près de 100 personnes, en grande majorité des manifestants, des Irakiens qui réclament le départ du gouvernement accusé de corruption. Lucille Wasserman est à Bagdad pour France Culture.
Après une semaine sanglante, Bagdad enterre ses morts. Dans les quartiers chiites de la ville, il n'est pas rare de voir des drapeaux noirs sur les façades de certaines maisons. Le drapeau des martyrs, des victimes de ces derniers jours. Beaucoup d'entre eux sont morts sous les tirs de snipers. Des snipers qui ont fait irruption dans les rues de Bagdad depuis vendredi, sans que l'on ne sache s'ils font partie des forces de sécurité ou de groupes armés. Les rumeurs et les accusations se propagent dans les rues de la capitale irakienne. Certains accusent des milices pro-iraniennes, d'autres les gardiens de la révolution eux-mêmes, ou encore l'État islamique. Les théories du complot sont toutefois monnaie courante ici, et rien pour l'heure ne permet d'accuser l'un de ces groupes que les habitants pointent du doigt. Un porte-parole du gouvernement a affirmé qu'une enquête était actuellement en cours pour faire la lumière sur ces tirs qui se multiplient dans les rues de la capitale irakienne. Tous les manifestants en parlent et les craignent, mais malgré les morts, malgré toutes ces familles en deuil, la plupart sont retournés dans les rues de Bagdad ces derniers jours.
Lucille Wasserman en Irak pour France Culture. En Tunisie, 7 millions d'électeurs doivent élire leur nouveau parlement aujourd'hui. Le berceau du printemps arabe organise des élections législatives une semaine avant le second tour d'une élection présidentielle qui a balayé toute la classe politique traditionnelle. Cette élection cruciale pour le pays devrait malgré tout afficher une très forte abstention, alors que depuis la révolution de 2011, avec la nouvelle constitution, le parlement a bien plus de pouvoir que le président. Maureen Mercier, notre correspondante à Tunis.
C'est sans doute le scrutin le plus ouvert de l'histoire de cette jeune et fragile démocratie. Personne ne se risque à faire le moindre pronostic. Premier enjeu, la participation. Moins d'un électeur sur deux a voté lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a 3 semaines. Même les plus optimistes attendent un taux de participation encore plus faible aujourd'hui. Deuxième enjeu, le vent de dégagisme qui n'a aucune raison de s'arrêter de souffler. Écœurés par leur classe politique, les Tunisiens ont sanctionné les partis traditionnels lors du premier tour de la présidentielle. Le scénario devrait se répéter. Tous les regards se tourneront aujourd'hui en direction des islamistes d'Ennahda, premier parti actuellement au Parlement. Son patron, Rached Ranouchi, rêve d'accéder au perchoir. Arrivé en force après la révolution, Ennahda voit depuis le nombre de ses partisans fondre. Et pour la première fois, le parti islamiste est concurrencé sur sa droite par un nouveau parti islamo-populiste, le mouvement Karama. Les premières estimations devraient tomber ce soir.
Maureen Mercier à Tunis pour France Culture. Élection législative aussi au Portugal aujourd'hui. C'est Antonio Costa qui est donné grand favori. Le Premier ministre socialiste est au pouvoir depuis 2015 avec l'appui de l'extrême gauche. Et cette fois, il pourrait faire alliance avec le parti animaliste qui pourrait décrocher 4 sièges selon les dernières estimations. En France, le procureur antiterroriste a évoqué hier des signes avant-coureurs d'une radicalisation non détectée chez Michael Harpon, cet informaticien de 45 ans qui a tué 4 de ses collègues à la préfecture de police de Paris jeudi. Il était en contact avec plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste, selon les mots du procureur. Mais surtout devant des collègues, il avait justifié les attentats de Charlie Hebdo en 2015, Emmanuel Leclerc.
Le procureur antiterroriste s'appuie sur le témoignage de ce policier venu raconter sur procès verbal vendredi ce qu'il avait entendu de la bouche même de Michael Harpon. C'est bien fait pour parler de la tuerie de Charlie Hebdo. Sur quel ton faisait-il croire à une plaisanterie? Toujours est-il que le policier et plusieurs collègues présents l'ont aussitôt fait remonter oralement à leur hiérarchie. À ce jour, selon nos informations, il ne reste rien de cet incident dans les archives de la direction du renseignement parisien. Pas de note écrite, pas de signalement, un agent qui n'a donc jamais fait l'objet d'un véritable criblage, une vérification approfondie. Dans le dossier de Michael Harpon, au casier judiciaire vierge, apparaît une procédure pour violence conjugale en 2009, mais depuis plus rien. Rien sur ses dernières fréquentations à la mosquée, des personnes pourtant dans le viseur de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et rien sur ses changements vestimentaires récents pour aller prier, alors que ça faisait plus de 10 ans qu'il s'était converti. Michael Harpon arrivait désormais systématiquement à la mosquée en tenue traditionnelle.
Et le Premier ministre Édouard Philippe annonce ce matin dans le journal du dimanche la mise en place de 2 missions pour réévaluer les procédures de détection des signes de radicalisation chez les agents du renseignement. Le chef du gouvernement qui défend aussi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui avait déclaré jeudi que le suspect n'avait jamais présenté de signes d'alerte et dont une partie de l'opposition de droite et d'extrême droite réclame la démission. Une marche blanche s'est tenue hier à Pantin en hommage à Christine Renon, la directrice d'école qui s'est suicidée le 22 septembre dernier, laissant derrière elle une lettre dans laquelle elle avait dénoncé ses conditions de travail et des réformes contradictoires. Dans le cortège, hier, des proches, des enseignants, des directeurs et directrices d'école. C'est un reportage de Nourane Mahmoudi.
L'émotion est toujours vive après le suicide de Christine Renon dans une école de Pantin. Dans le corps enseignant, pas tant de tristesse que de résignation, Claire, professeure des écoles.
Ça m'avait touchée, mais pas plus que ça. Et en fait, hier, on a reçu une lettre de Monsieur Kern, donc le maire de Pantin, qui exprimait son soutien. Et là, je me suis effondrée en larmes. Et je crois que ça m'a vraiment touchée plus que ça. Son combat, le geste qu'elle a fait, c'est à prendre en considération, quoi. Et c'est dur.
Du côté des parents, c'est la tristesse et l'émotion, comme a pu le ressentir Chloé Bocard, déléguée des parents d'élèves d'une école de Pantin.
Une grande tristesse, tout d'abord. Et bizarrement, je n'ai pas été étonnée d'une certaine manière que des personnes puissent en arriver à un acte aussi extrême.
Leslie Cato, institutrice dans un établissement du Val d'Oise, a profondément été attristée par la mort de Christine Renon. Mais après le choc, c'est l'incompréhension.
C'est indirectement une collègue et que ça ne devrait pas arriver. Enfin, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou dans un autre corps de métier, c'est le genre de choses qui ne doivent pas arriver parce que ce n'est pas normal d'en arriver à elle donner la mort parce que les conditions de travail permettent pas d'être serein dans son boulot.
La marche s'est achevée à l'école primaire Méhul à Pantin, l'ancien établissement de Christine Renon, où ses collègues lui ont rendu un dernier hommage. Au total, plus d'un millier de personnes étaient présentes à cette marche blanche.
Reportage signé Nourane Mahmoudi pour France Culture. La météo, de la pluie de l'Est jusqu'aux Pyrénées aujourd'hui, avec des averses donc attendues aussi cet après-midi sur le centre du pays. Du soleil en revanche sur le bord de la Méditerranée et sur le Nord-Ouest, la Bretagne et la Normandie sont concernées. Les températures moyennes sont comprises ce matin entre 10 et 22 degrés, avec 10 à Amiens, 15 à Paris, 17 à Lyon, jusqu'à 22 degrés à Nice.